France Culture. Les nuits de France Culture.
Aujourd'hui comme hier, le métier de grand reporter de guerre est un métier dangereux et la liste est longue de ceux auxquels il n'a pas laissé le temps de vivre. Parmi ceux-là, Michel Laurent, photographe, l'un des plus doués de sa génération, prix Pulitzer à 26 ans, est mort à 28 ans au Vietnam en avril 1975, alors que la guerre s'achevait. En 1986, dans le quatrième volet de la série consacrée aux grands reporters que programmaient les Nuits Magnétiques, Christian Hoche racontait dans quelles circonstances Michel Laurent avait été tué et lui-même grièvement blessé et fait prisonnier le 24 avril 1975, à quelques jours de la chute de Saïgon. Une émission au cours de laquelle le journaliste François Forestier rappelait de quelle influence avait été la presse sur le déroulement et l'issue de la guerre du Vietnam et quel rôle avaient eu les images dans le récit au jour le jour de ce conflit. Et pour évoquer la manière dont le cinéma avait représenté cette guerre, né au Vietnam en 1948, venu en France avec sa famille en 1954, le cinéaste Lamley comparait ce qu'avait été le travail de Pierre Schoendoerffer dans son film documentaire « La section Anderson » avec celui de Francis Ford Coppola dans « Apocalypse Now ». Nuit magnétique, les grands reporters, quatrième et dernière partie, les correspondants de guerre, la guerre du Vietnam. Première diffusion le 7 novembre 1986 sur France Culture.
Les correspondants de guerre de Thierry Grillet, André Petit, Max Goyet. La guerre du Vietnam est la dernière guerre ouverte. Les journalistes font du bateau stop, du char stop, de l'hélico stop. Ils sont partout. Et ça n'est pas un des moindres paradoxes de cette guerre que de voir parfois des campagnes se donner des allures de pique-nique. On en oublierait presque la guerre. Christian Hoche, correspondant de guerre au Figaro avec Jean Pouget, ne l'a pas pour sa part oublié. Aujourd'hui, Christian Hoche se souvient d'un épisode tragique.
J'ai 41 ans, je suis grand reporter à l'Express depuis plusieurs années maintenant et je suis journaliste, enfin j'espère que cette définition est toujours valable. Je continue à faire ce métier, ça fait 20 ans maintenant, et j'ai toujours, à part une toute petite exception, j'ai toujours travaillé en ce qui concerne l'étranger, tout ce qui se passait hors hexagone. Avec quelques zones privilégiées, enfin le Proche-Orient bien sûr, mais aussi l'Asie du Sud-Est où il y a encore quelques mois j'étais dans la péninsule indochinoise. Voilà. Je suis arrivé à Saïgon pratiquement dans sa longue agonie. Nous savions avec certitude que Saïgon allait tomber quand nous ne le savions pas. Je suis donc arrivé, si ma mémoire est bonne, un 24 avril 1975 à Saïgon. Je ne connaissais absolument pas l'Asie, ni réellement les situations de guerre. De sorte que je suis arrivé dans une ville en totale déliquescence. Nous savions en tout cas que cette partie du Vietnam, le sud, était condamnée. Quand nous ne le savions pas. Alors nous avions projeté, avec plusieurs confrères, de sortir de Saïgon. Parce que depuis plusieurs jours, nous n'avions aucune information militaire sur ce qui se passait hors Saïgon. Nous ne savions pas où se situaient les zones de combat, et en tout cas où la progression des troupes nord-vietnamiennes. Nous avons donc décidé avec un ami très cher, qui s'appelait Michel Laurent, probablement le photographe le plus doué de sa génération, qui avait reçu d'ailleurs pour son travail au moment de la guerre du Bangladesh le prix Pulitzer. Donc merveilleux photographe, ami surcroît, nous avions décidé avec une autre voiture aussi d'une équipe de la télévision française, d'aller voir ce qui se passait sur la route numéro 1. C'est l'ancienne route mandarine, et c'est une route qui était particulièrement dangereuse parce que depuis deux jours, on l'avait vu, les troupes sud-vietnamiennes, ce qu'il en restait, les débris des troupes sud-vietnamiennes, refluaient par cette route numéro 1. Donc nous avons pris le matin du 27 avril 1975 cette route avec donc Michel Laurent et une équipe de la télévision française. Nous étions avec deux voitures, deux Dalat et Orange en plus. Ce détail a son importance, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et nous avons donc repris cette route numéro 1, nous avons passé la fameuse base de Bienora, où des tirs d'artillerie, les dernières salves d'artillerie sud-vietnamiennes continuaient à partir, mais c'était vraiment, je pense, les toutes dernières. Nous avons dépassé Bienora, et au lieu d'approcher les zones des combats, nous sommes tombés pile sur l'offensive Ho Chi Minh, celle qui a été déclenchée le matin du 27 avril 1975, pour, comme son nom l'indique, le dernier coup d'estocade sur les troupes sud-vietnamiennes, donc la ville de Saigon. Et elle a démarré dans un petit village qui s'appelait Trang Bum, qui est à peu près à 40-45 km de Saigon, au nord-nord-ouest. Et donc les combats ont éclaté avec une soudaineté extraordinaire. Nous avons essayé de faire demi-tour à nos voitures, nous avons tourné, et à ce moment-là, une volée d'obus est tombée. La voiture de la télévision a réussi à s'échapper, avec les pneus arrière crevés, etc., mais l'équipe de la télévision a réussi à se sauver et à être épargnée. En revanche, un gros éclat d'obus est tombé sur notre voiture, dans le moteur, impossible de la faire démarrer. Ça prenait une tournure extrêmement dangereuse, de sorte qu'on a abandonné notre voiture. On s'est mis dans le fossé, on s'est protégé, puis on a vu un petit chemin de traverse qui était perpendiculaire à la route numéro 1. On s'est protégé autant qu'on pouvait derrière un bouquet d'épineux. Je me souviens, il y avait une ferme au fond, c'était un petit chemin de terre. Et nous sommes restés là une bonne heure avec l'impossibilité totale de bouger parce qu'il y avait, nous ne les avions pas vus à l'aller, mais il y avait des miliciens catholiques qui donnaient l'appareil, si je voulais, aux troupes nord-vietnamiennes. C'était les derniers combattants, irréguliers, mais combattants tout de même, avec des prêtres à leur tête, et qui sont battus comme des chiens. Donc, impossible de remonter cette route en direction de Saigon pour fuir, parce que nous étions sous un feu croisé. Ça a duré une bonne heure, et puis, nous étions sourds, parce que c'était des bombardements énormes, c'était de l'artillerie lourde, c'était du 40-125, c'était des obus de mortier, c'était des armes automatiques, et nous étions vraiment à plat ventre, et dès qu'on levait la tête, des rafales partaient. Donc on est resté comme des rats terrés pendant une bonne heure. Nous avions l'impression que les combats s'étaient déplacés, et qu'une certaine accalmie régnait, bien que le feu soit encore proche, mais c'était un petit peu calmé. Et une folle question nous a envahi, Michel Laurent et moi, en disant, bon, on va essayer de récupérer cette voiture, parce que c'est le seul moyen de pouvoir se sortir. Nous savions qu'il y avait un éclat d'obus qui avait touché cette voiture, mais je ne sais pas, une folle pensée nous a envahi. On est sorti de notre abri provisoire, et à ce moment-là, d'une petite guérite, casemate, qui était occupée peu avant qu'on arrive par les débris, c'était des rangers, l'armée sud-vietnamienne. Pendant cette heure où nous étions restés, à plat ventre, les Nord-Vietnamiens avaient investi ces casemates, et au moment précis où nous sommes sortis de notre trou, où nous sommes exposés, nous avons été rafalés. Comme j'étais devant, normalement j'aurais dû prendre toutes les rafales, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin on a pivoté tous les deux pour nous remettre dans le fossé, mais Michel Laurent a été touché de plein fouet dans au cœur, je pense, et en tout cas il avait une balle dans la gorge. Et moi, j'ai remarqué une balle dans la jambe, une balle dans la mâchoire et un petit éclat de mortier dans le ventre, au même moment. Michel n'est pas mort tout de suite, il a agonisé une bonne dizaine de minutes. Et j'étais pétrifié, j'étais rouge de sang. Et je me suis dit, bon, Michel est peut-être évanoui seulement par le choc de cette blessure, il n'est pas mort, j'espère pas. Je suis retourné donc dans mon trou, que nous avions quitté quelques secondes avant, encore sous le feu d'une rafale de K-47, et je me suis dit, bon, je récupère mes forces, et puis je vais essayer de tirer Michel, en m'exposant à nouveau, mais il n'y avait pas d'autre solution, et de le mettre à l'abri. Je n'avais aucune notion des soins que je pouvais lui apporter et m'apporter provisoirement. À preuve, c'est que j'ai fait un garrot complètement à l'envers. Parce que j'avais donc ramassé une balle ici dans la jambe. C'était une balle explosive, donc la plaie était très très ouverte. J'avais la certitude que l'artère fémorale n'était pas touchée parce que je serais resté quelques minutes et c'était fini. Et puis l'os n'était pas touché non plus parce qu'autrement j'aurais pas pu marcher, j'aurais pas pu bouger. Et pendant que je reprenais mes forces, dans la perspective d'aller chercher mon ami Michel Laurent, à déboucher de ce petit chemin une section d'assaut nord-vietnamienne. Qui a bondi. Ça faisait 3 jours que j'étais au Vietnam, je ne connaissais pas le Vietnam, et j'avais juste appris un mot qui était Bao Chi Phap, qui veut dire presse française en vietnamien. Donc j'ai hurlé Bao Chi Phap. C'est des jeunes combattants, 17-18 ans, les fameuses sections d'assaut de la 315e division, enfin les sections d'élite. Bien entendu, à nouveau, ils m'ont mis en joue, j'ai levé les bras, ils m'ont retiré ma montre. Ils m'ont pris mes papiers, c'est-à-dire mon crayon, mon carnet de notes, et mon passeport et ma carte de presse et tout ce que j'avais sur moi. Et il y avait du fil de fer qui traînait pas très loin de l'endroit où j'étais fait prisonnier. Ils en ont coupé un bout et m'ont ficelé les mains. Et puis ils m'ont fait marcher. Je suis repassé devant le corps de Michel, j'ai essayé de le soulever. À ce moment-là, j'ai pris un coup de crosse d'AK-47 dans les reins. Je suis tombé pas très loin du corps de Michel, mais à la fois fou de terreur et fou de douleur, parce que là, j'avais compris qu'il était mort. Petite casemate que je vous décrivais il y a quelques instants, où effectivement j'ai vu le type qui a tiré sur nous, puisque il était en sentinelle, en poste. Très curieusement, j'ai pas été accueilli avec hostilité. On m'a même donné des rations de survie nord-vietnamienne. C'était totalement infect, et puis j'avais une fièvre de cheval. Là, j'étais rouge de sang. Après cette petite pause qui a duré une dizaine de minutes, j'étais accompagné, avec un bon équipage, si j'ose dire, une espèce de centre de regroupement dans la ville de Trang Bum, où il y avait beaucoup de prisonniers sud-vietnamiens, l'armée sud-vietnamienne, qui étaient presque tous en civil d'ailleurs, et qui avaient essayé de se fuir, mais qui avaient changé de d'uniforme et qui étaient cantonnés dans une espèce de cour de ferme. On était une bonne cinquantaine. J'étais placé dans une section de prisonniers. Je la fermais parce que j'étais non seulement le plus grand, d'une part, mais d'autre part, je traînais la patte, évidemment. J'ai encore reçu aucun soin. Alors, on s'est mis en marche, toujours attachés, les uns aux autres. Et moi, plus particulièrement, les autres avaient des cordes, mais moi, j'avais du fil de fer qui me faisait un mal de chien, exception faite des autres blessures, parce que ça commençait à cisailler. Et j'ai suivi cette colonne. On m'a donné un bâton de marche quand même, cette colonne, pendant d'abord pendant toute une période, pendant toute une zone de rizière, où alors les derniers tirs de la base de Bienoa tombaient sur nous. Donc non seulement nous étions prisonniers, j'étais blessé assez grièvement, et en plus à chaque instant nous étions exposés au dernier tir de l'armée sud-vietnamienne. Bref, on a traversé cette zone de rizière, puis on est rentré dans la forêt. Alors là, c'est vraiment la forêt, c'est la jungle, hein, c'est pas les Vosges. À ma grande stupéfaction, j'ai pu constater que la forêt était truffée d'unités nord-vietnamiennes, truffée, avec des blindés camouflés, des charges d'artillerie un petit peu partout. Enfin, c'était très très étonnant. Et puis j'avais une soif absolument épouvantable, j'avais de la fièvre. On a traversé donc dans cette rizière une espèce de marigot. Je me suis jeté dedans. J'ai dû boire 25 litres d'eau pourrie. Et à ce moment-là, j'ai repris un deuxième coup de crosse sur la tête parce que je m'étais échappé de la file de prisonniers. On m'a relevé, je me suis remis à marcher. On est passé après dans une petite unité, probablement assez similaire à celle qui m'avait fait prisonnier, c'est-à-dire des unités d'élite. J'étais perçu comme un Américain, probablement. parce que j'ai entendu Mai, et Mai ça veut dire américain en vietnamien, et en vérité, il ne pouvait dans leur esprit s'agir que d'un américain, bien évidemment, pris dans les zones de combat, ça ne pouvait être qu'un conseiller américain. D'où d'ailleurs le fait que jusqu'à présent, j'ai été fait prisonnier parce qu'ils ne faisaient pas de prisonniers blessés. Les Nord-Vietnamiens en avaient trop, donc ils les achevaient. Et effectivement, des types sont tombés devant moi qui étaient assez grièvement blessés, mais qu'ils ont achevé. Je crois en fait que je suis en vie aujourd'hui parce qu'ils m'ont au début pris pour un américain, un conseiller américain, donc ils voulaient me faire parler. Alors je suis passé dans la forêt, la nuit est tombée, on est passé près de cette petite section d'assaut, et c'est là où j'ai appris Mai américain, ce qui m'a fait croire que donc ils me prenaient pour un conseiller américain. Et là, je dois dire qu'ils m'ont, pardonnez-moi l'expression, mais cassé la gueule. Ils s'étaient mis, vous savez, comme les fourches gaudines gauloises, enfin romaines, quand ils faisaient passer leurs prisonniers, c'est un peu ça ce qui s'est passé. De part et d'autre d'un petit chemin dans la forêt, une dizaine de types ont laissé passer la colonne, j'étais le dernier, et à ce moment-là, à coups de pied et à coups de crosse, m'ont fait tomber. Je ne sais pas combien de temps je suis resté évanoui, mais enfin, j'imagine, cinq bonnes... Enfin, c'était immense. J'étais toujours rouge de sang, noir de latérite, rouge noir de latérite de terre, parce que je tombais assez souvent, et puis j'étais épuisé, là. Passer la nuit à la Belle Étoile avec ses colonnes de prisonniers, puis on est reparti assez tôt, vers 4h du matin, pour atterrir dans une immense clairière où là, il y avait au moins 500 prisonniers vietnamiens. J'ai dû faire 60 km à pied dans l'état où j'étais. J'étais épuisé, je ne pouvais plus faire un centimètre. Et je me suis volontairement mis sur le côté en invoquant les droits des prisonniers, les conventions de Genève que j'ignorais totalement. Je les ai inventées, j'ai hurlé en français. Au point que, à un moment, un type est venu m'apporter une gourde d'eau, ce qui était fabuleux, parce que j'avais une soif effrayante. Mais pas plus. Je me disais, mais d'une chose une, où je passe un interrogatoire et je leur dirai qui je suis, où ils veulent me faire mourir à petit feu, et dans ce cas-là, ils s'y prennent très bien. C'est la première hypothèse qui était la bonne, parce qu'au bout d'une bonne demi-heure, après avoir bu cette gourde d'eau, probablement un colonel, mais il n'avait pas de grade, enfin les grades n'étaient pas visibles quand ils sont au combat, est venu m'interroger par l'intermédiaire d'un soldat, un officier sud-vietnamien qui était prisonnier, qui parlait très bien le français. Alors on m'a demandé mon nom, je me souviens, c'était très rapide, mon nom, qu'est-ce que je faisais à Trang Bum, pourquoi j'étais dans la zone des combats, et bien entendu que je n'étais pas prisonnier, que j'allais être libéré et soigné surtout, parce que j'ai demandé des soins immédiats compte tenu des conventions de Genève que j'ai inventées. Oui, donc un interrogatoire extrêmement rapide, assez courtois, je dois dire, et à ce moment-là, donc changement de climat, changement de d'attitude à mon égard, j'ai eu le droit donc à de la tôle ondulée, une espèce de plaque de tôle ondulée qui était un petit peu un luxe par rapport à l'ensemble des prisonniers. Il faut dire que j'étais le seul prisonnier blessé. Les autres étaient quelques égratignures, mais blessés assez grièvement, j'étais le seul. Alors j'ai eu le droit à un traitement de faveur, que j'ai considéré comme un traitement de faveur, avec cette plaque de tôle ondulée. Je me souviens aussi, un des soldats nord-vietnamiens avait été chercher dans la forêt des bananes sauvages, qui m'avait offert, et une énorme gourde d'eau qui était pour moi le bonheur. Alors j'ai aussi, surtout au cours de cet interrogatoire, exigé qu'on cherche immédiatement Michel Laurent, car j'étais obsédé par cette disparition. J'étais convaincu qu'il était mort, mais tout petit espoir fragile faisait que j'ai insisté auprès de ce colonel pour que il aille immédiatement chercher Michel Laurent. Alors le traducteur m'a dit oui, il a bien noté, etc. Bref, c'était la dernière fois que je revoyais Michel. Je voyais Michel, et c'était très très obsédant. J'ai passé donc une première nuit, une deuxième nuit avec les Nord-Vietnamiens, puis le lendemain matin, on m'a signifié qu'il fallait que je quitte ce camp de base, où il y avait donc, encore une fois, près de 500 prisonniers sud-vietnamiens. Et puis on m'a accompagné, mais alors à mon rythme là, ce qui était déjà... Si vous voulez, je suis passé de l'enfer au purgatoire. à mon rythme, on m'accompagnait dans un petit, enfin à travers un petit chemin de dans la forêt, auprès d'un hôpital que j'ai appelé l'hôpital Ho Chi Minh, parce qu'il fallait bien le désigner, en fait, qui était une espèce de comment on pourrait dire ça, oui, un hôpital de campagne, petit hôpital de campagne, protégé par des énormes branches à cause des bombardements des B-52. C'est une région qui avait été pas mal défoliée aussi. Je suis passé avec deux combattants de ce camp de transit à l'hôpital Ho Chi Minh, cet hôpital de campagne. Alors, dès que je suis arrivé dans cette petite clairière, très protégée, il y avait trois personnes. J'ai vu sur un petit bas-flanc de bambou une petite scie. Et je me suis dit, ma jambe est dans un tel état. Encore une fois, je n'avais reçu aucun soin. Ma jambe est dans un tel état, elle a commencé à noircir. J'avais peur que ce soit la gangrène qui s'y mette. Je me suis dit, bon, là, si, bon, tant pis pour ma jambe. Je suis en vie, c'est miraculeux. Je vais très probablement être amputé. Mais enfin, perdre ma guibole, non seulement m'inquiétait, mais je trouvais ça désolant. Je pensais qu'il y avait peut-être un moyen de la nettoyer. Puis effectivement, on m'a étendu sur un bafond de bambou, m'a fait des piqûres de pénicilline ou je sais pas quoi. Enfin, tout ce qu'ils avaient pu récupérer, enfin, leur matériel qui était assez pauvre, leur matériel à la fois chirurgical et de soins. Par exemple, cette plaie qui était très très ouverte dans la jambe, ils l'ont nettoyée avec de l'eau bouillie, et puis, mais très proprement, très bien fait. Et puis, pour que la cicatrice se perd le plus vite possible, ils m'ont versé pratiquement un pot de miel. Je ne sais pas où ils avaient trouvé ce miel, et je ne savais pas non plus que ça avait des effets cicatrisants, ce qui était vrai en fait. Et puis, le type n'était pas médecin, c'était un infirmier assez doué de ses mains, assez compétent, plutôt sympathique d'ailleurs. Encore une fois, je ne parlais pas un mot avec eux, ils ne parlaient que le vietnamien. Je ne voulais surtout pas parler l'anglais parce que j'étais toujours obsédé aussi par le fait qu'ils me prennent pour un conseiller américain, malgré les explications de texte que j'avais fournies. Donc je lui ai fait comprendre qu'il fallait qu'il me laisse ma jambe, il me l'a laissé, il m'a mis du miel, il m'a recousu la mâchoire, parce qu'elle était quand même bien esquintée, avec beaucoup d'habileté. C'était un vrai purgatoire, mais qui ressemblait un petit peu à autre chose que le purgatoire, parce que si j'ose dire, mes hôtes étaient charmants. Il y avait un petit infirmier qui était là, et puis j'avais aucune nouvelle, j'avais aucun moyen de prévenir mes amis, l'ambassade, que j'étais en vie, que Michel était mort, etc. Donc j'étais aussi. Je suis resté 10 jours dans ces conditions, mais au bout du 4e jour, j'ai fait une tentative de fuite. Malgré tout, mais comme j'ai aucun sens de l'orientation, au bout de 10 minutes, très gentiment d'ailleurs, mais vous savez, quand vous entendez le déclic d'un AK-47, vous bougez plus. Et ils m'ont accompagné à mon bas-flanc de bambou en me disant surtout ne bouge, enfin me faire comprendre qu'il fallait plus que je bouge parce que là, ça pourrait mal se passer. Cela dit, on m'avait dit que j'étais libéré, que j'étais pas prisonnier, mais ma fuite m'a fait penser que je resterais encore très longtemps.
La voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam.
La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée.
Nous répétons, la campagne Ho Chi Minh a remporté la victoire totale. La ville de Saigon a été totalement libérée.
Le 30 avril, j'ai appris que Saigon était tombé parce que l'infirmier qui m'avait soigné est parti, a quitté la forêt, d'une part, m'a fait comprendre que Saigon était tombé, et d'autre part, j'ai entendu, parce qu'ils avaient un petit transistor, le discours de Phan Van Dong, qui était un discours exaltant le courage, la vaillance du noble peuple vietnamien et la chute de Saigon. Et alors, il s'est passé une chose très extraordinaire dans cette forêt, que je croyais vide, en fait, puisque je pensais que toutes les troupes étaient parties sur Saigon. C'est que c'était bourré de petits maquis, de petites unités, et pendant toute la nuit, ils ont lâché des rafales de Kalachnikov pour fêter l'événement. Il y a eu un orage en même temps wagnérien, un orage de mousson et étonnant, enfin d'une violence extrême, et ça se confondait, le tir des Kalachnikov se confondait avec cet orage énorme. Et puis, je recommençais à trouver le temps long. Je ne savais pas ce qui se préparait à Saigon. C'est-à-dire, mes confrères, quand même, ne nous voyant pas rentrer, les gens de la télévision ne nous voyant pas rentrer le soir même, s'étaient inquiétés, avaient arrêté à l'ambassade de France, pensant qu'on serait peut-être là le lendemain matin. Et puis, nous ne voyant pas venir, ils s'étaient dit deux choses. Une, ou ils sont morts, ou ils sont prisonniers tous les deux. Mais ils ne pouvaient pas imaginer que notre sort soit séparé, si vous voulez. 4-5 jours après la chute de Saigon, c'était une grande kermesse, mais l'organisation prussienne et la vietnamienne, nord-vietnamienne, ne se faisait pas encore. Donc, une voiture de la Croix-Rouge internationale, la voiture de l'ambassadeur de France et du consul, plus les voitures des confrères, c'est-à-dire un convoi s'était branlé, s'est mis en route depuis Saigon, puisque les gens de la télévision savaient, en gros, où nous étions arrêtés. Donc ils sont retournés sur la route numéro 1 avec l'ambassadeur et la Croix-Rouge internationale, et ils sont arrivés à l'endroit précisément où on était tombé. À l'époque, nous n'avions vu personne, mais plein de gens étaient c'était barricadés chez eux, c'était camouflés, etc. Et ils nous avaient vus. Et ils savaient effectivement qu'il y avait deux corps qui étaient de blancs, qui étaient pas très loin de l'endroit où s'était arrêtée la voiture de l'ambassadeur de France. Et ils ont avec un fossoyeur local, ils ont remué beaucoup de tombes, ils sont tombés sur celle de Michel Laurent. Donc on leur a dit, celui qui est derrière, il y a une autre tombe toute fraîche, ça peut être celle de Christian Hoche. Ils ont déterré le corps, c'était celui d'un Vietnamien qui est mort probablement peut-être après qu'on y ait été touché, qui avait ma taille, qui avait une chemise bleue, j'avais une chemise bleue, un blue jean. Ils m'ont pris pour le blanc qu'ils avaient enterré. On a ramené à Saigon, à la morgue de l'hôpital Graal, le corps de Michel. Et mon vieux copain Jean Pouget, qui était l'un des envoyés spéciaux du Figaro, nous étions trois pour couvrir ce conflit, ancien officier de l'armée française, qui avait sauté sur Bien Bien Phu, l'un des tout derniers, qui connaissait parfaitement le Vietnam, et en tant que vieux militaire, s'il dit si on ne trouve pas un corps, c'est qu'il y a une chance, parce qu'ils avaient remué beaucoup de tombes, c'est qu'il y a une chance qu'il soit en vie. Il est reparti le surlendemain avec un planteur, il y avait beaucoup de plantations de caoutchouc, les terres rouges notamment, avec un planteur qui parlait parfaitement le vietnamien, et ils ont reconstitué un petit peu, ils sont revenus à Trang Bum, et puis ils ont interrogé des gens, puis effectivement, ils sont tombés sur quelqu'un qui leur a dit oui, effectivement, il y a des prisonniers, et il y avait un blanc qui traînait la jambe. Ils se sont dit, bon, alors ils ont fait un travail d'archiviste, de bénédictin, et ils ont remonté ma filière jusqu'à ce qu'ils tombent sur le dernier village, celui qui était proche de la forêt, que j'avais vu effectivement à l'aller, où ils sont tombés sur l'infirmier précisément qui m'avait soigné, qui avait quitté le village le jour de l'hôpital Ho Chi Minh, cet hôpital de campagne, qui avait quitté cet hôpital le jour de la chute de Saigon, le lendemain, et qui avait, en tant que cambo, c'est-à-dire commissaire politique, avait investi ce village, et c'était sous son autorité. Et quand on leur a dit, quand ils ont demandé aux paysans, mais est-ce que quelqu'un l'aurait vu, on leur a dit, mais lui vient de la forêt, donc il va pouvoir vous renseigner. Et ils ont été le voir, et on lui ont dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un journaliste? Le type s'est mis au garde-à-vous en disant, oh, c'est Christian! On dit, oui, c'est Christian Hoche, etc. Alors, il est dans la forêt. Oui, mais allez le chercher. Non, je ne peux pas, je n'ai pas d'ordre, je ne peux pas aller le chercher. Mais Pouget dit, moi, je vous donne un ordre, je suis militaire français, je suis colonel de l'armée française, je vous donne l'ordre d'aller chercher Christian Hoche. Et puis, c'était peut-être un petit peu brutal. Heureusement, l'ami planteur, connaissant bien le Vietnamien et les Vietnamiens, on a commencé à négocier la Vietnamienne avec beaucoup de temps, de calme. Ils ont bu, je ne sais pas, 25 000 thés. Et puis, à la fin, le planteur dit au Cambo, au commissaire politique, mais vous n'êtes pas encore venu à Saigon, vous ne connaissez pas Saigon. Vous n'êtes pas encore venu à Saigon. Ben non, j'ai pas les moyens d'y aller. Mais pourquoi? Ben parce que je n'ai pas d'essence. J'ai une moto, mais j'ai pas d'essence. Alors je peux pas y aller, j'attends les ordres. Et ben, moi, je vous propose un truc. J'ai une jerrycan de 50 litres d'essence dans mon coffre. Est-ce que... Ben voilà, alors, je vous offre 50 litres d'essence, mais vous libérez Christian Hoche. Alors le deal s'est fait comme ça. Effectivement, j'ai vu, alors que je commençais à trouver le temps long, vers 13h, je me souviens, c'était un mardi, je crois, arrivé à nouveau mon infirmier, mais qui paraissait préoccupé parce qu'il violait un petit peu les ordres, et j'étais échangé vraiment contre, mais j'ignorais toute la tractation évidemment, mais qui faisait un peu la gueule, qui avait l'air un petit peu crispé avec deux autres types, deux autres combattants. Alors ils m'ont demandé de me rhabiller, enfin ils m'ont aidé à me rhabiller parce que j'étais habillé de noir, ils m'avaient laissé mes affaires dans un tel état, ils m'avaient habillé comme les combattants de la forêt, j'étais tout en noir. Alors je me suis redéshabillé, ils m'ont aidé à remettre mon jean, mes chaussures, et puis ils m'ont collé sur la moto, et on est reparti dans la forêt. Je ne savais pas du tout où on allait. Ce que je savais, c'est que je quittais ce camp et que c'était en gros une bonne nouvelle, parce que j'aurais dit Biennois. Pour moi, Biennois, c'était cette base, et j'étais sûr qu'il y avait un téléphone, que je pourrais appeler mes camarades à Saigon. Donc il m'a dit oui, Biennois. Il n'a pas très bien compris ce que je voulais dire, mais je savais qu'en tout cas je quittais la forêt, et au bout de... quand on a quitté cette forêt, j'ai vu ce petit village, on l'a approché, et je me souviens, dans une, il y avait une petite rue à angle droit, et j'ai vu la voiture du planteur français avec le drapeau français, le drapeau nord-vietnamien, et au loin, Pouget, Jean Pouget, galopant comme un fou. Et c'était un moment extraordinaire, d'une très très rare émotion, et un moment de joie intense et en même temps de tristesse immense avec la disparition de Michel Laurent. Je vous fais grâce de tous les détails parce que il y en a eu beaucoup d'autres, mais voilà, en gros, il y a eu 10 jours très très pleins, très riches, très denses, très étonnants. J'ai consigné tout ça dans un, parce qu'ils m'ont donné un petit cahier d'écolier et une pointe bic. Et comme les journées étaient effroyablement longues, elles commençaient avec le lever du soleil, elles se terminaient avec le coucher du soleil, toujours étendu, ils sont débrouillés, je ne sais pas où ils trouvaient ça, ils y trouvaient aussi des vieilles cigarettes qu'ils me donnaient, enfin tout ça était très gentil, et j'ai donc terminé par un point final, ce cahier que j'avais noirci, au moment même où Jean Pouget et moi, on est tombés dans les bras.
Et vous l'avez encore
Oui. Oui, je l'ai gardé, c'est-à-dire que quand je suis rentré en France, j'ai été assailli par plusieurs maisons d'édition pour que... Genre, pour raconter cette histoire, je trouvais ça assez impudique. J'aime pas beaucoup parler de moi, donc je trouvais ça non seulement impudique, mais surtout parler de la mort d'un ami. Je sais pas parler de la mort d'un ami, j'ai totalement refusé. En revanche, j'ai conservé ce crayon bic et ce cahier.
Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Vietnam, Vietnam, everybody crying about Vietnam. Below Lonely, they'd kill me down in Mississippi. Nobody seemed to give a dime.
François Forestier, journaliste à l'Express, s'est passionné pour les documents de la guerre du Vietnam. Je lui ai demandé si la correspondance de guerre avait eu des incidences sur la société américaine.
C'est-à-dire qu'il faut distinguer plusieurs moments dans cette guerre. Vous faites référence comme date finale à 75, qui est la chute de Saïgon, mais vous savez que les Américains s'étaient retirés déjà à partir de 72. Donc y a cette phase-là, déjà, on peut ne pas la prendre en compte. Disons, au niveau simple du correspondant de guerre. En ce qui concerne la période 61-65, c'est la plus intéressante puisque ça correspond à la période où les Américains s'engagent très fort dans la guerre du Vietnam, où le général Westmoreland demande de plus en plus de troupes et finalement, au sommet de la guerre, c'est-à-dire en 69, on aura plusieurs millions de troupes. On ne connaît pas le chiffre exact, mais on sait qu'il y a eu en tout 4,5 millions de soldats américains qui sont passés au Vietnam, dont 10% ont vu le feu. Ces 10%, il y a eu un taux de perte effrayant sur ces 10%, et même sur les soldats qui n'ont pas vu le feu, il y a eu un taux de 1 750 000 soldats qui ont reçu un traitement psychiatrique au retour et de 50 000 suicides, ce qui est immense, immense. C'est donc une guerre qui a eu des effets psychologiques dévastateurs, en partie d'ailleurs grâce, c'est un mauvais mot, mais en partie à cause de l'hélicoptère qui était un moyen de transport extrêmement rapide, donc on pouvait récupérer les blessés en état de choc ou blessés tout simplement, et on les soignait plus tard. Donc toute la conséquence sur le terrain n'était peut-être pas visible, mais il y avait l'aftershock, ce que les Américains ont appelé l'aftershock, et qui se traduisait au pays lui-même. Donc de 61 à 65, la guerre a été couverte de façon, j'ose dire, conservatrice. C'est-à-dire que la plupart des journaux, notamment le New York Times, sur lequel il y a eu des études très sérieuses, ont couvert la guerre plutôt pour. Et à partir de 65, l'attitude des correspondants de guerre a commencé à changer. C'est-à-dire, en même temps que le doute s'installait dans l'équipe gouvernementale, et c'était évident à partir du moment où plus on demandait d'hommes et plus on n'arrivait à rien, en fait, plus cette guerre s'enlisait. À partir de ce moment-là, les journaux ont commencé à refléter ce doute. On ne peut pas dire que le doute des journaux a précédé celui des gens au pouvoir, mais qui lui a été parallèle. On ne peut absolument pas dire, en l'état des choses actuellement, que les journaux, la presse écrite en tout cas, a forgé une opinion. C'est faux. C'est vrai que la presse a pu être manipulée, c'est vrai que l'image télévisée a pu être manipulée, elle l'a été, et elle l'est toujours d'ailleurs dans certains cas, mais c'est vrai aussi que cette guerre a été la première guerre américaine, non américaine et à ma connaissance internationale, aussi couverte par les médias, et sans aucune censure. C'est-à-dire qu'au sommet de la guerre, au moment où la télévision a pris le relais de la presse écrite, c'est-à-dire disons 69, qui était vraiment le sommet, il y avait dans les, la télévision diffusait en gros 4 heures d'images, très souvent en direct, ou en tout cas très fraîches, dans les salons américains, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Quel impact a eu cette, cette image? C'est difficile à évaluer maintenant. En tout cas, le sénateur Fulbright, qui s'est fait entendre très souvent pendant la guerre, estime aujourd'hui que cet impact a été non négligeable sur la dissolution du support moral de la majorité silencieuse. Et qu'à un moment, cette majorité silencieuse a dit « bon, ça suffit ». Ce qui a été traduit d'ailleurs par le président Nixon, le jour où il a dit « si nous perdons Walter Cronkite, qui était l'éditorialiste vedette de la télévision et qui soutenait la guerre, à partir d'un moment, du moment où Walter Cronkite a fait un éditorial contre la guerre, Nixon a dit « c'est fini pour nous ». Il faut qu'on se retire. Et à partir de 69, effectivement, il y a eu un retrait des troupes américaines qui a commencé.
All over you.
Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que cette guerre donc a été couverte en long, en large, en travers, en biais. Il y en a eu absolument sous tous les angles. Et simultanément, les bourgades les plus reculées de l'Amérique recevaient les premiers cadavres, c'est-à-dire les bourgades où il y avait 200 personnes, tout d'un coup, ils recevaient des avis de décès, et tout d'un coup, l'Amérique profonde s'est sentie touchée au vif, ce qui n'était pas le cas au début. Et entre 65 et 69, en même temps que cette guerre touchait l'Amérique profonde à cause des décès qui étaient constatés et touchés du doigt, si j'ose dire, la télévision a pris le relais, et ça, ça a été, je pense, un événement, un tournant très important, à la fois sur le plan de l'effet psychologique et à la fois sur le plan idéologique. J'entends par là que le Viet Cong a très très bien compris comment se servir des médias américains. Je ne veux pas dire qu'il a réussi à retourner l'opinion américaine, mais il a compris comment se servir de ça. Si vous regardez les documents qui existent aujourd'hui et qu'on peut voir, on voit les manifestations de bonze. Eh bien, les manifestations de bonze ont des banderoles rédigées en américain, alors qu'eux-mêmes ne parlaient pas l'anglais. Donc, ils savaient très bien qu'il y avait des caméras de télévision, ils savaient très bien que ça serait diffusé, et ils savaient très bien qu'il y avait une manipulation possible, en tout cas. Cette manipulation a été possible dans la presse d'extrême gauche, dans la presse, disons, même de gauche. Il y avait le mouvement hippie, il y avait Timothy Leary, il y avait tous ces gens-là, Jerry Rubin, qui ont repris à leur compte et qui en ont fait un mouvement de masse. Mais chez les jeunes, dans la grande majorité, et même le New York Times, qui a été un journal plutôt libéral, comme vous le savez, avec contre Nixon, avec le Watergate, etc., ont gardé une attitude plutôt conservatrice. Il n'y a pas eu d'effet de masse sur l'opinion. C'est l'opinion qui a été plutôt le reflet de la tendance gouvernementale. Tout doucement, ça s'est décomposé et s'est retourné. Les conséquences, donc, n'ont pas été des conséquences directes, mais intimement mêlées à la fois dans le gouvernement, à la fois dans l'opinion et à la fois dans la presse. Ça va de pair. Je ne veux pas dire qu'il y a eu une influence de l'un sur l'autre, mais ces trois points représentatifs de la vie américaine ont avancé de concert.
Il y a des correspondants de guerre qui sont devenus des vedettes. Je pense à Michael Herr, il y en a peut-être d'autres.
Oui, non, Michael Herr, il y en a eu un autre. Il y a eu Don McCullin, qui est un photographe très très connu et qui a réalisé ses plus belles photos au Vietnam, notamment d'un casque planté sur un fusil enfoncé sur une baïonnette en noir et blanc, qui est très très beau. C'est une très belle photo. Il y en a eu beaucoup. Il y a aussi des cas. Michael Herr, c'est vrai que c'est un écrivain immense. C'est probablement le plus beau livre sur le Vietnam qu'on ait pu écrire. Et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des vétérans du Vietnam, je ne sais pas si vous le savez, mais la durée moyenne du service armé au Vietnam, c'était d'un an. C'est-à-dire que les soldats, de base, n'avaient qu'une seule idée, c'était de survivre et pas du tout de se battre. Ils comptaient 365 jours à rebours. Et les deux mois avant leur libération, ils n'étaient plus censés voir le feu. Ce qui c'était pas toujours respecté, mais en principe, ils étaient. Donc, ils se planquaient, ils se terraient, ils tiraient leur casque sur la tête, ils attendaient que ça se passe. Donc, il y avait très souvent pas beaucoup d'esprit combattant. Ceci dû à des raisons uniquement bureaucratiques. En ce qui concerne la couverture de photos et des agences, etc., il y a des images qui nous restent en tête plutôt que des articles. C'est vrai que Michael Herr a écrit son livre à partir d'articles, Dispatches, qui a été traduit par Putain de mort, et c'est chez Albin Michel, je crois. Il a trouvé un ton absolument unique, mais c'est quelqu'un qui n'a plus rien écrit après. C'est quelqu'un qui a juste collaboré à Apocalypse Now, où on retrouve beaucoup de phrases typiques de lui, et c'est quelqu'un qui n'a plus rien écrit, qui a été brûlé par la guerre du Vietnam. Et j'ai rencontré un de ses amis qui a été au Vietnam avec lui, et qui m'a dit il a beaucoup de dragons dans sa tête. Ce qui est vrai. En revanche, les articles ont bien reflété la guerre du Vietnam, mais n'ont pas, comme je le disais précédemment, changé l'opinion. En revanche, il y a une image qui résume la guerre du Vietnam. C'est la fameuse image que la télévision, je crois que c'était NBC, mais je n'en suis pas sûr, où on voit le chef de la police de Saïgon abattre d'un coup de feu un suspect qui a les mains liées derrière le dos. On voit l'homme tomber par terre, un jet de sang s'échapper de sa tempe. Et c'est, si vous voulez, c'est une image, comme pendant la guerre d'Algérie en France, il y a une image qui a retourné la police contre l'OAS, qui était l'image d'une pèlerine de policiers, d'agents de la paix, qui était prise dans un arbre suite à une explosion, dans un arbre nu, c'était en hiver. Ça a retourné l'opinion et ça a retourné surtout la police qui a, dès ce jour-là, a décidé de combattre activement l'OAS. Il y a donc cette image au Vietnam, qui est l'image du suspect abattu, qui est restée. Et ça nous pose un problème d'interprétation qui, moi, me tracasse un petit peu, c'est vrai, dans la mesure où on ne sait pas ce qui se passe autour de cette image. Or, il y a plusieurs versions. Je vais vous donner la version la plus connue. Je ne sais pas si elle est vraie. Mais en tout cas, c'est un exemple intéressant. Ce qu'on voit, c'est sans le son. On voit un homme de dos, qui est le chef de la police de Saïgon, qui sort une arme de poing, pistolet, et qui tire. L'homme s'abat et la caméra suit par terre l'homme qui est en train de mourir. C'est très choquant, mais il n'y a pas de son. Or, suivant des témoins qui auraient assisté à cette scène, cet homme, qui est un suspect, a été retrouvé dans un village où on venait de trouver toute la population morte. Et notamment, l'un des amis du chef de la police avait été égorgé avec ses 8 enfants dans ce village. Et le seul homme qu'on a trouvé, c'est ce suspect, avec un couteau à la main. Et l'image qu'on voit généralement sans le son, si on restitue le son, il paraît qu'on entendrait que le chef de la police est dans une colère noire, d'abord, premièrement, deuxièmement, qu'il insulte l'homme, et troisièmement, qu'il dit « voilà pour mon ami ». Hors de son contexte, on ne comprend pas cette image. Si on restitue ce contexte, c'est tout à fait, ça ne paraît plus un acte d'injustice délibéré, ça paraît comme un acte de vengeance, ou de colère, tout à fait aussi injuste, mais ce n'est pas délibéré, c'est sur le coup d'une colère, ou d'un... Je ne je ne juge pas cette image, je ne juge pas l'acte de tuer ou de ne pas tuer. Je dis simplement que l'interprétation qu'on peut donner de cette image est passionnante, simplement sur le plan de la signification, comme on peut mettre dos à dos les deux interprétations. C'est ce type d'image qui nous reste de la guerre du Vietnam. C'est ce type d'image qui ont servi, je crois, à reconstituer plus tard, dans des films comme Apocalypse Now, Voyage au bout de l'enfer, Les guerriers de l'enfer, qui à mon sens est un grand film méconnu de Karel Reiss, qui est un film merveilleux, tiré d'un roman de Robert Stone. C'est ce type d'image qui a servi de base à la reconstitution. C'est ce type d'image qui a servi surtout à l'espèce de culpabilité qu'on peut sentir dans les films. Ce que la télévision nous offrait, offrait aux Américains plutôt, à partir, disons, de grosso modo 68, c'était des images de combat, c'était très souvent des interviews de combattants en première ligne. C'était d'ailleurs assez intéressant, puisque moi je me souviens par exemple, lors de l'attaque de Hue, en 67, on voyait un soldat américain, il faisait froid, il avait de la buée qui sortait de la bouche, il était en train de se faire canarder de tous les sens. On attaquait au lance-flammes le palais de Hue et on lui demandait vous êtes sûr du bien fondé de votre présence ici, et il disait oui. Il réfléchissait un peu et puis il disait maintenant j'en suis plus tellement sûr. Alors ce genre, évidemment, ce sont des images qui sont sortis, encore une fois, de leur contexte. Faut pas oublier que juste avant, vous aviez la réclame pour les caniches, pour la nourriture pour les caniches XX, et tout de suite après, vous aviez la déclaration de Nixon ou de Westmoreland ou qui vous voulez, enfin, où il y avait des commentaires. Donc c'est quand même une réalité documentaire qui est prise en sandwich. Il faut jamais perdre cet aspect que le documentaire sert, malgré tout, malgré lui, si j'ose dire, un discours qui est celui de la télévision et du système dans lequel il est.
Est-ce qu'il y a quelques photos de la guerre du Vietnam que vous souhaiteriez évoquer et commenter ?
Écoutez, il y a une photo qui doit vous rester en tête, je pense aussi, c'est la photo de la petite fille qui marche sur une route et elle est nue. Je crois qu'elle avait 7 ou 8 ans à l'époque. Elle est nue et visiblement elle vient de subir un bombardement. Et je ne sais pas si ma mémoire me fait défaut ou si elle mélange quelque chose, mais je me souviens que lors d'un des premiers films sur la guerre du Vietnam qui s'appelait Hearts and Minds, le cœur et les esprits, je ne sais plus comment c'était traduit en français, de Émile D'Antonio, qui lui est un communiste américain, donc il faut quand même replacer ça. Je me souviens de cette image et peut-être se mélange-t-elle dans ma mémoire à une autre image où on voit une femme porter une petite fille, très petite celle-ci, dans ses bras, morte, et qui vient de subir un bombardement au napalm et dont la peau pend. Et je ne sais pas si ces deux images se superposent ou pas, mais j'avoue que ça a été un grand choc. Je pense que c'est le choc des images, en ce qui concerne la guerre du Vietnam, a été absolument décisif, puisque premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été probablement la seule guerre de l'histoire qui n'a pas été censurée, donc les gens avaient accès absolument à tout. Et deuxièmement, c'était la seule guerre de l'histoire où la couverture de l'image, c'est la guerre de l'image en fait, a été aussi importante. Quand on pense à la guerre des Malouines, par exemple, où on n'a eu pratiquement aucune image, c'est une guerre qui n'existe pas. Sans image ou même sans texte, les guerres n'existent pas. Ce sont des conflits lointains. La guerre Irak-Iran, le peu d'images qu'on en a vues, c'est terrifiant. C'est vrai que c'est une guerre qui n'est pas tellement couverte parce qu'on ne peut pas s'y rendre. Quand on pense qu'il y a eu déjà au moins 1 million, voire 2 millions, dit-on, de morts, c'est, en tout cas les chiffres les plus raisonnables font état de 800 000 morts, on a peine à imaginer l'ampleur du conflit. Et sans images, désormais, les guerres n'existent pas. Je crois que c'est la grande conclusion du Vietnam.
Oui, la guerre du Vietnam a été une guerre d'image, une guerre de salon, comme on l'a encore désigné, parce que la télévision diffusait chaque jour dans des millions de foyers plusieurs heures de reportage sur le Vietnam. La guerre en direct, en quelque sorte. Comment un correspondant de guerre filme-t-il la guerre? Quel type de dramaturgie gouverne les images de guerre? J'ai rencontré le cinéaste Lamley qui parle de la section Anderson de Pierre Schoendoerffer. L'image de guerre, en quelque sorte, vue par un cinéaste.
Ce qui est étonnant dans le film de Schoendoerffer, c'est, de regarder ces films, j'ai regardé la 317e section, qui était une fiction de Schoendoerffer. Moi, je crois la différence entre un documentaire, disons un reportage d'un cinéaste comme Schoendoerffer, qui est en même temps militaire et en même temps correspondant de guerre, donc journaliste, c'est que Schoendoerffer a cadré surtout le regard, quoi. En même temps, il jette son regard sur les images de guerre, donc sur une réalité, et en même temps, il cadre le regard, et ça, c'est terrifiant. C'est que nous tous, c'est-à-dire, moi, je parle de nous dans le sens des jeunes réalisateurs, ou bien même des réalisateurs comme Coppola, qui n'a pas fait la guerre du Vietnam, et qui a fait dans Apocalypse Now 20 ans après. C'est à partir, je crois, que de la mythification même que des gens comme Schoendoerffer a mythifié le regard des vrais protagonistes de la guerre, des réels auteurs de ces images, que nous autres, les réalisateurs de fiction, arrivent à en faire une dramaturgie. Et je crois que j'en ai vu d'autres documents, par exemple sur la guerre du Vietnam, qui étaient tournés seulement par des journalistes de guerre, donc de reporters de guerre, qui ne sont pas des militaires. Et je ne vois pas dans les autres reportages cette mythification du regard de la guerre, quoi. Et ce qui est formidable, c'est le problème que se pose un cinéaste, par exemple, quand on filme la terre, le paysage, disons. Le problème qu'on se pose, c'est toujours comment filmer la terre, les paysages, la plaine, les montagnes, comme un paysan devrait le voir. Parce que nous autres hommes de la ville, nous ne savons pas comment filmer la terre comme un paysan devrait le voir. Je crois que tous les peintres comme Millet, ainsi de suite, et d'autres cinéastes de la terre, disons, comme André Antoine, dans les années 20 en France, ont essayé de restituer ce regard du paysan qui regarde sa terre, puisqu'il travaille sa terre, dans l'atome même de la poussière. Et Schoendoerffer, il a filmé la guerre comme un militaire voit la guerre. Et ça, c'est la différence énorme avec un reporter, un journaliste, qui est de toute manière une personne de la ville. Donc, de la ville, c'est-à-dire, c'est un regard livresque sur la guerre. C'est-à-dire, on anticipe son regard sur la guerre. Alors qu'un type comme Schoendoerffer, qui est militaire, donc qui a fait la guerre d'Indochine, qui était prisonnier, donc qui a vu, qui n'intercepte que les regards aussi bien du vainqueur que du vaincu, puisqu'il était au départ vainqueur dans la section française, puis après prisonnier, donc subissant le regard de vaincu, témoignant des regards de vaincu dans les prisons vietnamiennes, et subissant les regards des vainqueurs, non? Donc lui, il a capté ce regard, c'est comment un militaire voit la guerre, et ça c'est formidable. Donc ça dépassait la notion de tragédie, au fait. Hein? Ça fait que le film de Schoendoerffer, aussi bien fiction que documentaire à lui, deviennent au fait des leçons d'humanité. Et ça, c'est terrifiant. C'est, bon, moi, c'est la première fois que j'ai vu section d'Anderson, et c'est ça qui me fait frémir, pas du tout dans les horreurs de la guerre, pas du tout. C'est que on a l'impression que la caméra s'est substituée pour nous. C'est-à-dire que nous, dans notre fauteuil devant la télévision, tout d'un coup, on se sent investi d'une mission, d'un devoir, c'est d'être militaire, d'être soldat. Moi qui n'ai jamais été militaire de ma vie, qui n'ai jamais été soldat, tout d'un coup, je me suis dit, voilà ce qu'on peut voir quand on est soldat. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, le pouvoir du son qu'il y a dans ce film qui était pris sur le vif, j'ai jamais su que de voir quelqu'un est blessé, une blessure d'un paysan, d'un soldat blessé, pourtant on n'entend rien à l'image ici. comme on entend les cris du blessé. Pourtant, dans le son direct, on n'entend pas le cri de ces blessés. C'est vrai que nous l'entendons. C'est-à-dire que c'est une voix intérieure. En fait, c'est comme nous, quand nous sommes blessés, nous sentons cette blessure. Et ça, c'est formidable. Tout ça, ce n'est que dans le regard. C'est dans le regard que lui, en tant que réalisateur, il jette sur cette souffrance. Et en même temps, le regard de l'être qui souffre, quoi. Et ce qui est très, très fort aussi, c'est la façon dont il cadre ces images. C'est une sorte de cynisme en même temps, de cynisme et d'indifférence devant cette souffrance en tant que cinéaste, en tant que militaire surtout. Quand il cadre les visages des soldats pendant l'attaque des villages, par exemple, il ne cherche pas, à ce moment-là, il ne cherche plus l'esthétisme. L'esthétisme est hors de question et hors sujet même. Et justement, c'est hors sujet-là qui devient le vrai sujet du film, qui est le langage cinématographique, disons, de la guerre, quoi. Alors, les visages sortent du cadre, reviennent dans le cadre, parce qu'il y a une urgence, une priorité. La priorité, c'est comment, à travers le cadre qui est le 1.33 de la télévision et de la caméra, comment faire sortir ce off-là que lui, il entend, puisqu'il regarde d'un œil dans l'œilleton, avec son œil dans l'œilleton, et il y a un autre œil qui est son oreille qu'il entend. Il est obligé, indépendamment de l'ingénieur du son, parce qu'à ce moment-là, il ne sait pas ce qu'enregistre l'ingénieur du son. Hein. Et donc, il essaie, avec le deuxième œil fermé, hors de l'œilleton, disons, de traduire ce qu'il entend par son deuxième œil qui est son oreille. Et ça, c'est formidable. Ça, il n'y a personne au monde qui ne peut faire ça. Sinon, le mec, il a vécu ça. Et en même temps qu'il a vécu de son expérience d'homme, en même temps son expérience de cinéaste, quoi. Donc ça, pour moi, le documentaire a ce pouvoir-là que le cinéma peine énormément à le faire. C'est quasiment impossible pour un cinéaste aussi grand qu'il soit. C'est pour ça d'ailleurs que dans Apocalypse Now, pour combler ce vide et cet handicap, il te fout le truc de Wagner. Parce qu'il a cette dimension, cette troisième œil, disons ce deuxième œil qu'un caméraman devrait avoir ouvert, le deuxième œil ouvert que l'autre est dans l'œilleton de la caméra, qui est remplacé donc par l'oreille, qu'un cinéaste de fiction comme Coppola ne peut pas rendre, est obligé de mettre une bande-son qui est de la musique, qui est de Wagner, qui est de la sensation propre, qui est, disons, l'œil du cœur, quoi. Il y a un document fabuleux sur la mort d'un correspondant de guerre, d'un caméraman de guerre pendant la guerre américaine, qui avec sa caméra, qui continue à tourner pendant qu'il crevait, je crois. Il y a un document où il a reçu une balle dans la gueule. Il était mort déjà, je crois, à la frontière de la mort, et la caméra continue à tourner automatiquement. Donc, pour nous, cette caméra est la caméra subjective de quelqu'un qui crève, qui est en train de crever, et je crois que c'est un document qui est passé à 7/7, je crois, c'était absolument fabuleux. Et en même temps, fabuleux, en même temps, pour nous, très voyeurs en même temps. Parce que si on ne vous explique pas, par le commentaire, que la caméra, que l'image que vous êtes en train de voir est la caméra de quelqu'un qui est en train de crever, vous ne voyez pas la différence entre la caméra, de ce que fait Chandler faire, par exemple, à travers ce documentaire, c'est qu'il a, disons, court-circuité l'effet événementiel par la présentation du personnage dès le début. C'est-à-dire, celui-ci, il s'appelle un tel, il est blessé pendant l'attaque, avant l'attaque, bien avant, disons, que l'événement commence. Et là, il a déconnecté tout seul, lui. Ce fait que tout d'un coup, son documentaire à lui passe dans la... se bascule, disons, dans la fiction, en fait.
Difficile pari que de côtoyer la guerre sans être contaminé par l'horreur. Certains photographes disent que les correspondants de guerre sont les intouchables du journalisme, des exclus, des pestiférés, une opinion qui a la vie dure.
Le problème des documents de guerre, des reportages de guerre, je le rapproche toujours un peu des phénomènes de cirque. C'est qu'on va au cirque, On s'attend toujours, par exemple, dans les séquences des numéros d'acrobates. Pour le public, quand on voit des numéros d'acrobatie, de voltige, quand il y a un filet, et sans filet, ça ne crée pas le même effet. Je rappelle toujours quand je me rappelle des cirques, j'oublie toujours le filet qui est tendu en dessous. Et quand je vois des numéros de cirque sans filet, il y a un degré d'émotion, de suspense, disons, réel, qui se crée chez tous les spectateurs. Et on s'attend à que l'acrobate, d'une manière ou d'une autre, va s'écraser au sol ou non. Même s'il ne s'écrase pas, on ne le souhaite jamais. Mais avec cette, déjà, on se dit que peut-être si s'écrase, on sera témoin d'un événement exceptionnel. Et au fait, ça se crée au fait un plaisir, disons, très sadique, conscient ou inconscient chez les spectateurs. Déjà chez moi, ça a créé ça quand j'étais môme, donc c'est quelque chose de très humain, disons. Et quand on assiste à un reportage de guerre, le problème est disons, similaire. C'est on se dit toujours, est-ce que celui qui filme va filmer premièrement un événement extraordinaire, c'est-à-dire un soldat mort ou bien quelque chose qui explose en plein devant l'objectif, ou bien celui qui va le filmer va mourir pendant qu'il filme.
Correspondant de guerre de Thierry Grillet, André Petit, Max Goyet.
C'était Les correspondants de guerre, la guerre du Vietnam, par Thierry Grillet et André Petit, quatrième et dernière d'une série de 4 nuits magnétiques consacrées aux grands reporters. Première diffusion le 7 novembre 1986 sur France Culture.